BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, tout le monde s'est lassé de la drôle de trêve en Iran et des déclarations contradictoires de Donald Trump. Alors, on va pas en parler. Voilà, on a décidé de pas en parler. D'habitude, on fait des spéciales Iran. Là, c'est no Iran. Mais j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Vous allez me dire, ah ben parce qu'on va analyser les événements majeurs qui ont marqué la semaine sur l'économie, la finance, les marchés. Votre argent au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est pour faire plaisir à un de mes invités qui défend toujours la France, c'est décroissance française. La question macro, l'inflation publiée cette semaine en Europe justifie-t-elle une hausse des taux? Le chiffre de la semaine, ah, le chiffre, j'aurais pu en choisir plein. C'est encore ces chiffres qui nous viennent des États-Unis. Là, c'est 85 milliards de dollars. Ça va être la levée de capitaux d'Alphabet après ce qu'on a appris sur OpenAI et après ce qu'on a appris sur SpaceX. On va en reparler. Un autre monde, une autre planète. Hein. On n'a pas attendu d'aller sur la planète Mars pour être sur une planète finance qui ne ressemble pas à la nôtre aux États-Unis. En deuxième partie de l'émission, je vais demander à nos experts quel a été l'événement qui a marqué leur semaine sur les marchés. Où va la bourse? La question d'argent. Évidemment, quel est le placement qu'il faut privilégier cette semaine? Le top ou le flop que vous attendez tous, ce top 3 des gérants qu'attendent tous les gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, et vous allez voir, on a une surprise. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors, une nouvelle recrue pour C'est votre argent, c'est toujours un énorme événement et peut-être, qui sait, l'occasion d'un bizutage. Vous savez, vous êtes nerveuse.
Oui, j'espère que le bizutage va pas être trop féroce.
Non, et ils me disent tous que je me suis ramolli.
Pareil. Mais j'espère que vous resterez ramolli aujourd'hui.
Je suis heureux donc d'accueillir Isabelle Job-Bazzi. Vous êtes directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Merci d'avoir accepté.
Maintenant, je suis ravie.
Personne ne défend la France mieux que lui à travers ses paroles, mais aussi à travers ses choix de gestion. Pierre Chang, vous êtes d'ailleurs responsable des pôles France et Impact à la Financière de l'Échiquier. Pierre, ça va?
Super. On organise le 9 juin France is back, un événement à Strasbourg.
France is back.
France is back.
Back to back.
Vous parlez quoi? Ça sera football?
Non, on invite des entrepreneurs pour expliquer que c'est possible de créer de l'emploi en France, c'est possible de travailler, de créer des emplois, de faire des success stories. Voilà, on va notamment inviter le fondateur de CRSI, par exemple, ou de Française de l'énergie.
Vous pensez que c'est vraiment possible? Vous.
Ah, là, c'est la preuve. Hein.
Donc, okay. La preuve.
Là, on va inviter trois success stories vraiment à Strasbourg. Donc c'est, voilà.
Mais quand on bouge sur les territoires, souvent vous avez. Enfin, moi, je suis toujours impressionné des pépites qu'il y a dans chacune des régions françaises.
Mais ça,
on n'en parle pas suffisamment, alors peut-être ici davantage. Mais c'est impressionnant.
Là, on aura CRSI, Française de l'énergie et Arverne. Voilà. Donc on est très heureux de vous inviter.
Bon, il va nous redonner la pêche pour le week-end. Elle est globale comme sa gestion et connaît parfaitement cette planète si éloignée de nous qu'est la planète États-Unis. Virginie Robert, vous nous parlez de ces chiffres complètement hallucinants. L'unité de mesure maintenant aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars.
Oui, c'est ça. Ça ne veut plus rien dire maintenant.
Non, mais c'est 1000 milliards de dollars.
D'ailleurs, les gens n'ont plus cette
notion de valeur.
Exactement. On a un peu perdu ce. Voilà.
Non, mais plus je regarde, et je regarde les chiffres maintenant, c'est toujours en multiple de 1000 milliards.
On a un problème là-dessus.
1000 milliards, c'est la base quoi, de tout.
Je pense qu'on perd les références. Il va falloir quand même les réécrire avec tous les zéros.
Mais vous pensez qu'on perd les références ou vous pensez que ce sont les nouvelles références des États-Unis?
Ah, c'est une nouvelle référence. Il y a peut-être des références qui sont un peu tendues quand même aussi. Hein, on en parlera. Bienvenue Isabelle alors.
Vous êtes présidente de Constance Associée. Il sait tout faire de l'économie au culturisme en passant par l'animation d'un programme passionnant sur BFM Business que je vous conseille d'écouter. C'est vrai.
Merci.
Ça se passe bien, ça marche bien.
Vous voyez, vous visitez plus du tout quand même.
Non,
c'est vrai.
Moi, en 2015, c'est pas pour revenir.
On va ressortir quelques archives.
On va utiliser.
Pour en parler plus de 10 ans.
Je suis devenu trop gentil, vous dites.
Ah, vraiment.
Bon, l'émission, laissez tomber, elle est nulle. Christopher Dembic, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM Management. Allez, le mot de la semaine, c'est décroissance française.
Je
Pierre, c'est pas,
j'aime bien ce regard, Marc.
C'est pas votre chanson. Hein. Bon, ce n'était pas terrible quand même, même si c'était pas une surprise. -0,1% de croissance au premier trimestre en France. Comment peut-on expliquer ces chiffres? Est-ce qu'on peut se consoler d'ailleurs? Parce que j'ai vu, Isabelle, qu'on a révisé à la hausse les chiffres de croissance pour l'INSEE pour 2023 et 2024. D'abord, C'est quoi cette révision, en fait? J'ai pas très bien compris.
Alors, cette révision, elle est...
Très spectaculaire.
Oui, c'est assez important. Après, c'est assez technique.
OK.
Et il y a une partie, c'est la difficulté, lorsqu'on a des périodes inflationnistes, de faire le partage entre volume et prix.
OK.
Or, la croissance, elle est en volume, quand on l'annonce. Et dans ces périodes inflationnistes, c'est vraiment très difficile de faire ce partage. Donc, on l'avait mal fait, et donc ça a été révisé à la hausse. Non, ce qui est...
C'est de la vraie croissance qu'on a révisée à la hausse ou pas?
Alors, c'est de la croissance en volume. Donc, c'est ce qui est dur. C'est pas lié justement, justement au prix. Non, ce qui est vraiment intéressant, au-delà de ces révisions techniques, c'est que ça change l'histoire en termes de productivité française.
Ok.
Le diagnostic qu'on faisait, c'est-à-dire qu'avant, avant la révision, on avait l'impression qu'on avait une panne de productivité en France. Ouais. On parlait beaucoup de ce retard de productivité qui était, par exemple, à fin 2023, on était en niveau de productivité, on était 4% inférieur au niveau de 2019. Ouais. Et on se démarquait d'ailleurs des autres pays de la zone euro. Alors, on avait eu effectivement une certaine reprise de l'activité, mais aussi une reprise qui était très enrichie en emploi. Et donc, on cherchait plein d'explications pour cette panne de productivité. On parlait de l'apprentissage, de l'explosion de l'apprentissage, le fait qu'on ait eu ces prêts garantis par l'État qui avaient mis sous perfusion certaines entreprises non productives. Enfin, voilà, on cherchait un tas d'explications, mais en fait, l'explication, c'est que le chiffre n'était pas le bon.
D'accord.
Puisque après révision, en fait, on a rattrapé notre retard de productivité dès la fin 2023.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est 2-3% au-dessus du niveau de 2019.
Donc, côté productivité, tout va bien.
Non, c'est pas que tout va bien, mais en tout cas, on ne se démarque pas par rapport à l'Europe.
D'accord.
Où on était on avait l'impression qu'il y avait vraiment une rupture en France qu'on ne voyait pas ailleurs. En revanche, on a bien évidemment une productivité qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aux États-Unis. Donc, il y a quand même des éléments d'inquiétude sur le faible niveau de productivité.
Et ce -0,1 au premier trimestre, il vous inspire quoi?
Alors, le -0,1, de la déception, parce que c'était par rapport à nos prévisions, que ce soit l'INSEE, la Banque de France et nous-mêmes, on était sur entre 0,2 et 0,3 de croissance sur le trimestre. Donc, c'est pas vraiment ça qui s'est produit. Aussi une déception par rapport aux pays voisins. Alors, les gros pays, parce qu'a priori, ça a été révisé, c'est beaucoup l'Irlande qui explique cette révision, mais quoi qu'il en soit, on avait 0,3% de croissance en Italie, en Allemagne, 0,6% en Espagne. Et donc, une vraie singularité française sur ce premier trimestre qui s'explique quand même par des éléments un petit peu exceptionnels. Ce qui pèse surtout sur l'activité, c'est la chute des exportations, notamment dans le secteur aéronautique. Et alors, on en retrouve une partie, ça veut dire qu'il y a eu des livraisons qui ont été retardées, donc on retrouve ça dans les stocks, puisque les stocks, eux, ont contribué positivement à la croissance. Mais quoi qu'il en soit, on imagine, vu les niveaux de livraison, qu'on va avoir une espèce de rattrapage dans les mois ou trimestres.
Et donc, vous attendez combien de croissance pour l'année ?
Sur l'année, on était à 0,9. Bon, on va le réviser. On est en train de le réviser à la baisse. On
sera 0,6, 0,7.
Ouais, 0,7, j'aurais tendance à vous dire. Et puis, le deuxième élément, c'était l'investissement. L'investissement baisse, c'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a la question de l'investissement public qui s'est fortement replié sur le premier trimestre. Faut se rappeler qu'on était en période électorale, gel des investissements. Et puis, on a voté le budget très tardivement. Et on s'attend aussi à un effet, à un peu de rattrapage durant l'année.
Donc, effet politique aussi.
Voilà, très donc fort. Effet politique. Donc, globalement, c'est pas une bonne nouvelle, mais il faut quand même probablement la relativiser.
Il faut relativiser, Christopher ?
Oui, je pense que la trame fondamentale pour l'économie française, elle a pas changé réellement. Par exemple, sur la production industrielle, si on regarde par rapport à 2019, donc avant Covid, on est finalement, on s'en sort un peu mieux que les grands autres pays européens. Mais sur le reste, si vous regardez la trésorerie des entreprises, notamment sur les PME, ETI, ça reste toujours très problématique. Ouais. C'était déjà le cas fin 2024. Ouais. C'est un élément qui amorçait effectivement une augmentation du taux de chômage qui se matérialise aujourd'hui. Donc il y a toujours les mêmes défis. Et surtout, peut-être, un point qui va vous intéresser. Vous avez eu récemment une étude d'Eurostat qui montre aussi que le micmac aujourd'hui, en termes de fiscalité, est vraiment problématique. On a
l'absence de visibilité.
Pas uniquement ça, mais l'amoncellement de taxes. En France, vous avez plus de 300 taxes diverses. Le numéro 2, qui est le Danemark, on a simplement autour de 130.
Okay.
Donc, ça vous donne, l'Allemagne, 90. Donc, juste l'amoncellement aussi d'un cadre fiscal, sans parler juste de l'incertitude, bien sûr, mais vous avez tellement de fiscalité qui est alourdie à un certain stade, c'est aussi un des problèmes fondamentaux de l'économie française.
Pierre, qu'est-ce qui vous rend positif ?
Alors, déjà, première chose, l'essentiel de la révision, c'est sur la production manufacturière. On se rend compte que, comme vient de le dire Christopher, depuis 2019, en fait, on ne s'est pas vraiment désindustrialisé.
Okay.
Donc, pour moi, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que la politique de l'offre qui a été mise en place sous Macron, elle a plutôt arrêter la désindustrialisation. Après 35 ans de baisse ininterrompue. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une source d'enthousiasme, quelque part. Deuxièmement, les chiffres de la zone euro sur le premier trimestre, c'est moins 0,2% sur le PIB du premier trimestre. D'accord, donc, c'est-à-dire que la France est mieux que la zone euro.
Voilà. Non,
donc,
mais non. Relatif, non, Pierre, c'est vous n'avez pas peur ce coup-là.
La zone euro, c'est...
D'accord, c'est la zone euro est à moins 0,2, nous, on est à moins 0,1 et on s'applaudit.
Moins 0,1, plus 0,1, bon, on est autour de l'équilibre. On a des économies en Europe.
Bon, on est à zéro, quoi. Ok.
Voilà,
vous n'allez pas me dire que c'est quelque chose de. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Parce qu'on est en train de dire le contexte politique est mauvais. Christopher nous dit l'incertitude, la fiscalité. Isabelle nous dit l'incertitude politique.
Non, moi, ce que j'essaie de faire, c'est je pense que c'est pas bon de se lamenter tout le temps.
Non.
Donc premièrement.
Non, mais ça nous empêche pas d'être objectif.
Donc quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure quelque part. Je me console parce que quand on regarde dans les autres pays,
Par rapport à qui vous consolez?
La situation politique dans les autres pays est mauvaise.
D'accord, mais économique, par rapport à qui vous consolez?
On parle souvent des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a un déficit colossal, qui a une dette énorme. Ouais. Je veux dire, ils sont presque, à part leur secteur technologique, ils sont dans une situation qui est plus grave que la nôtre.
Ils ont fait que 0,4 de croissance au premier trimestre.
Ouais. Enfin, c'est une situation qui est plus grave que la nôtre.
Sauf que la technologie, c'est quand même juste l'avenir, quoi. Secteur.
Ils sont pas
dans le tourisme et dans les musées.
Ils sont bons sur la tech, Tout le reste, je veux dire, c'est compliqué. Tout est compliqué.
Mais demain n'est que tech.
On verra ce
qu'il
y a. Pour essayer de rebondir sur ce que vous dites, sur le taux de chômage, tout le monde s'affole de la montée du taux de chômage.
Oui.
Aujourd'hui, c'est pas le bon indicateur. Si vous regardez le taux d'emploi, il est à des niveaux historiquement élevés en France.
Mais c'est pas bon d'avoir un taux de chômage au-dessus du 8% quand même.
Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas forcément le bon indicateur pour juger de la situation du marché du travail. On a fait augmenter notre taux d'emploi ces dernières années. Alors certes, là, on a raison. Si on se compare, par exemple, à l'Allemagne ou à certains pays nordiques, on est encore en deçà. Mais là, c'est lié à la remontée du taux de chômage, c'est lié à la loi plein emploi, où on fait revenir progressivement sur le marché du travail, des gens qui se mettent à chercher du travail, que ce soit des jeunes qui étaient sans emploi ou éloignés du marché du travail, ou des gens qui sont au RSA. Donc, ça veut dire que ça ne reflète pas, on ne perd pas d'emploi.
D'accord.
On ne perd pas d'emploi, c'est simplement, il y a plus de gens qui cherchent et ils ont un peu plus de mal à trouver, mais parce qu'ils étaient effectivement très éloigné du marché de l'emploi, mais le taux d'emploi, lui, est à des niveaux historiquement élevés. Voilà, ça permet...
Quand on voit ça des États-Unis, parce que vous êtes très global, vous n'êtes pas qu'américaine, mais vous connaissez bien les boîtes américaines. Franchement, on est un pays sous-dev, non?
Non, sous-développé, je dirais pas ça. Non, mais c'est très difficile. On a du retard. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de retard. On a du retard sur des tas de choses et on a des atouts. Et les atouts, on s'en occupe pas. Vous parlez du tourisme. C'est quand même une industrie fantastique et on s'en occupe pas. Donc je comprends pas.
On s'en occupe pas mal quand même.
Bon.
Emmanuel Macron voyage beaucoup, il fait du tourisme.
Oui, bon. On a un problème de soutien à l'investissement, c'est indéniable. Pourquoi nos talents, ils partent? Je rencontre encore des personnes qui sont dans l'IA et qui vont dire, de toute façon, maintenant, quand je vais être en croissance à tel niveau, je suis obligée de partir aux États-Unis. C'est terrible d'entendre ça. Donc, oui, on est en retard, on a un déficit d'investissement, on n'a pas on est sur un... je dirais une structuration qu'elle soit sur le travail
social.
Donc c'est compliqué.
Non mais c'est vrai, moi je rejoins Pierre dans le sens où on a énormément d'atouts, c'est ça qui nous désole, parce que si on n'avait pas d'atouts, on serait pas...
Oui.
Mais c'est pour ça que je me lamente pas, je me dis simplement, si vous voulez, tellement d'atouts, et je vois factuellement, à côté de ça, je vois une performance, et je vois un temps qu'on passe à parler des taxes, à parler contraintes, à parler de la politique.
La bureaucratie. Ça montre surtout qu'on a un modèle qui est très centralisé à Paris. Par exemple, indéniablement sur la tech, on a du potentiel. On parle beaucoup de data center et de choses France. Effectivement, en termes d'investissement, c'est quand même data center et logistique. Mais un data center en France, vous mettez 8 ans à ce qu'il soit opérationnel. Et sur ces 8 ans, vous avez 6 ans qui est juste du réglementaire, autorisation, etc.
Et ça sera obsolète. Une fois qu'il y aura l'appel d'offres sera rempli, ça sera obsolète.
Je pense qu'à la toute fin des choses, c'est que vous avez une incapacité à déléguer, parce que vous avez un État central, et toutes les grandes économies qui ont été en déclin et qui ont réussi à enrayer leur déclin, elles ont délégué davantage aux provinces, elles ont réduit l'assise de l'État, elles ont surtout mis en place des réformes ambitieuses. On n'en est pas là.
Allez, on passe tout de suite à la question macro, ça sera sur l'inflation. en zone euro, 3,2% la hausse des prix en zone euro, pas une surprise avec la hausse des prix de l'énergie évidemment, mais on sent déjà malheureusement la fébrilité de la BCE qui est prête à dégainer comme toujours à contre-courant une hausse des taux dès le mois de juin. Première chose, un problème de sémantique, Isabelle. Quand on dit l'inflation en zone euro est de 3,2%, est-ce que c'est correct ou est-ce qu'on devrait dire la hausse des prix à la consommation dans zone euro était de 3,2% et la hausse des prix, c'est pas l'inflation?
Ouf,
c'est la théorie de Jean-Marc Daniel qui nous dit.
Oui, la hausse des prix, enfin, c'est la hausse des prix à la consommation. Ouais. Enfin, l'indice, l'inflation, c'est la hausse des prix à la consommation sur
C'est pas ce que nous dit Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel nous répète en permanence ici, sur cette antenne, que l'inflation, c'est la hausse des prix généralisée. Et que là, on n'a pas une hausse des prix généralisée.
Non, on a une déformation des prix relatifs.
Voilà.
C'est vrai qu'on a une déformation des prix relatifs parce qu'il y a des prix qui montent, notamment les prix de l'énergie. C'est ce qui fait.
Il n'y a que ça qui monte. Et un peu l'alimentaire.
Non, typiquement, enfin, si on regarde l'indice d'inflation, donc le 3,2, je pense que ce qui peut inquiéter un petit peu la BCE de ce point de vue-là, sur ses effets un peu second tour, en tout cas de transmission ou de répercussion des hausses amont sur l'énergie, c'est sur les prix des services.
Ouais.
Les prix des services ont fortement accéléré, tout est relatif. Mais on est passé de 3 à 3,5%, ce qui quand même marque une certaine accélération. Mais là où il a raison, Jean-Marc Daniel, c'est oui, c'est pas tous les prix qui montent en même temps. On a plutôt une déformation des prix relatifs. Il y a certains prix qui... Et par exemple, en France, les prix des produits manufacturés continuent de baisser.
Alors vous, imaginez, vous êtes patronne de la BCE. Ouais. Vous avez imaginez quand même, juste pour l'émission. Vous voyez, c'est le bizutage, ça sera ça. C'est pas méchant quand même.
Non, ça va.
De vous mettre à la place de Christine Lagarde. Il faudra acheter l'écharpe. Mais vous avez d'un côté cette hausse des prix de 3,2%, et de l'autre côté, vous avez la croissance qui est à moins 0,2. Vous vous dites quoi? Je monte les taux parce qu'il faut montrer que je fais mon boulot et que je combats l'inflation, même si c'est purement symbolique? Ou je me dis, ben non, c'est la cata, si je monte les taux, ça va encore plus plomber les entreprises qui n'ont pas besoin de ça?
Alors, si je suis dans les chaussures d'un banquier central européen qui n'a qu'un seul mandat, qui est celui de l'ancrage nominal, donc qui est celui de l'inflation, avec une cible de moyen long terme qui, je le rappelle, est à 2%, donc on a aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on a quand même une inflation qui est à 3,2%, donc au-delà de la cible. On sait très bien, par contre, ils sont très conscients qu'on a un choc d'offres, effectivement, qui concerne essentiellement les prix de l'énergie, et que les banques centrales, elles peuvent pas agir directement
sur le détroit d'Hormuz.
Sur ces prix, c'est pas, voilà, elle va pas débloquer, on espérerait, mais non, elle ne peut pas débloquer le détroit d'Hormuz. Donc, généralement, ce que vous dit la théorie, c'est que, dans cette configuration, il n'y a pas nécessité d'agir, faut patienter, surtout si le choc est de nature temporaire. Sauf si vous imaginez qu'il y a un risque d'effet de second tour.
Okay.
Ces effets de second tour, c'est ces réactions en chaîne que l'on a. C'est quand il y a de l'inflation, les salariés vont demander un peu plus de hausse de salaire. Les entreprises vont chercher à préserver leurs marges en augmentant leur prix de vente. Et tout ça,
le cas quand l'économie ralentit.
Aujourd'hui, on se dit que ce risque, par rapport à 2022, on était dans une situation différente. C'est aujourd'hui, ce risque est quand même très faible. Mais je pense que la BCE aujourd'hui ne peut pas faire abstraction de l'effet mémoire de ce qui s'est passé en 2022, où, si vous vous rappelez, les banques centrales ont été fortement critiquées pour avoir agi tardivement, alors que l'inflation ne cessait d'accélérer. Elles ont agi tardivement et donc, du coup, elles ont été obligées d'agir très vite et très fort, ce qui a été un élément perturbateur. Donc oui, elle va probablement monter ses taux. C'est plutôt d'ordre symbolique pour se dire qu'elle s'occupe du problème. Et franchement, ça n'a pas changé la face du monde.
Ça ne va pas l'améliorer.
De 2 à 2, allez, admettons, si elle fait 1 ou 2, on est au taux neutre au niveau de politique monétaire. Donc c'est plutôt un signal, et puis à la rigueur, si la croissance, alors admettons que ça, on arrive à résoudre en partie cette crise en Iran, et si la croissance vraiment, on a une panne de croissance, elles pourront tout à fait, enfin les banques centrales pourront faire marche arrière.
Bon,
donc je suis moins critique. On aime beaucoup critiquer la Banque centrale européenne, mais elle fait face à un mandat.
Moi je trouve qu'elle s'est totalement plantée depuis 2021. Je le répète ici toutes les semaines.
Je sais.
Christopher, vous êtes patron de la BCE. Qu'est-ce que vous faites?
Je mets pas d'écharpe, mais en revanche, effectivement, elle doit, si vous devenez patron de la BCE, vous devez essayer de gérer le Conseil des gouverneurs pour sortir du mandat. Le problème, c'est le mandat, effectivement, de la BCE. Si on lit le mandat de la BCE, elle doit juste augmenter les taux, comme l'ont fait, je crois, à peu près 13 autres banques centrales du fait de la crise en Iran. Est-ce que c'est une erreur de l'augmenter, notamment si on passe de 2 à 2,50%, ça voudrait dire hausse de taux selon le marché monétaire qui est un peu attendu, donc le 11 juin et en septembre. Moi, ma crainte, c'est pas tant sur les grandes entreprises. Si vous regardez aujourd'hui les conditions de refinancement des grandes entreprises, tout ce qui est crédit à yield, etc., ça se passe bien, ça changera pas la face du monde, je suis complètement d'accord. En revanche, vous rajoutez un facteur négatif sur les entreprises PME, ETI qui ont recours au crédit bancaire, avec des banques qui vont être peut-être un peu plus réticentes, parce qu'il faut bien reconnaître que la trajectoire de croissance en zone euro, et les derniers chiffres sont là, est pas très réjouissante. Donc, vous avez quand même... Moi, ma crainte, c'est un peu cette japonisation de l'économie européenne. C'est-à-dire, c'était un sujet il y a quelques années de ça, et à mon avis, c'est toujours là. C'est-à-dire, une croissance qui reste relativement limitée. D'ailleurs, on est bons élèves, hein, finalement, en termes de croissance en France, par rapport même aux autres pays de la zone euro. Et surtout, une incapacité à remonter la croissance, à sortir de cette croissance potentielle, ou légèrement sur la croissance potentielle, qui est autour de 1%.
Donc, vous faites quoi, vous, si vous êtes patron de...
Ah, moi, je passerai outre parce que je suis impulsif et j'ai cette erreur-là de caractère. J'augmenterai pas les taux.
Mais... Les entreprises regardent ça, Pierre, ou pas? Ou elles se disent, j'espère que la BCE va pas...
Les entreprises, là, pour l'instant, c'est le SMIC. Donc, le SMIC, il y a une formule avec l'inflation, donc il va monter. Et c'est vrai que dans l'ambiance actuelle, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas quelque
d'accord,
chose
d'agréable. D'accord. Mais sur les taux, les entreprises, vous avez l'impression qu'elles disent un peu comme Isabelle, bon, c'est pas la fin du monde si on a une ou deux hausses de taux symboliques, ou elles disent comme moi que c'est un très mauvais signal.
Non, mais c'est pas un bon signal. Maintenant, là où je rejoins, c'est que c'est marginal, je dirais. Mais c'est vraiment le problème, c'est plutôt le SMIC. Voilà, je dirais. C'est la préoccupation. Ensuite, pour les secteurs qui sont exposés aux taux, comme l'immobilier, par exemple, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, là, on a vu maintenant, depuis le début de la guerre en Iran, on a vu quand même le secteur immobilier qui était en train de redémarrer tranquillement.
Par les défoncières, arrêté. Notamment côté.
Les foncières, les promoteurs. Donc là aussi, on est reparti sur quelque chose. Donc eux, ils sont très sensibles au taux. Et c'est vrai que ce signal, même s'il est symbolique de la BCE, c'est pas bon, quoi, pour les emprunteurs.
Vous avez vu ce que vous avez fait, Isabelle?
À cause de vous,
le secteur de l'immobilier est dans la panade. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais non, mais même si je regarde pour ma paroisse, c'est pas bon pour les banques. Quand vous augmentez les taux courts, ça va aplatir la courbe des taux. Et donc, votre activité de transformation, le crédit, eh bien, elle devient moins rentable.
Mais vous montez les taux quand même.
Non, je dis que si je me conforme à mon mandat, oui, je me sens un peu contrainte. Et puis effectivement, de toute façon, c'est pas la décision de Madame Lagarde, c'est une décision qui est collégiale. Donc je rejoindrai ce que me diront mes amis autour de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui vont vouloir monter les taux d'intérêt.
Et typiquement Isabelle Schnabel.
Voilà.
Ouais, bon,
Isabelle,
aux États-Unis, on regarde ce que va faire la Fed parce que c'est très important. On a un nouveau patron de la Fed qui arrive. Il est quand même sous contrainte de Donald Trump. D'un autre côté, il y a un peu les chiffres d'inflation.
Oui, mais cela dit, vous avez vu l'impact des anticipations. Et là aussi, il y a eu un switch aux États-Unis où on a dit il n'y aura plus de baisse des taux, voire une hausse des taux, etc. Il y a eu moins d'impact sur les marchés, la sensibilité, la lecture. Alors, probablement parce qu'il y avait d'autres sujets qui ont pris le dessus. Et notamment tout ce qui est technologie IA. Mais la sensibilité, donc c'est moins...
Qu'est-ce qu'il va faire, le nouveau patron de la Fed, là?
Je pense que le meilleur des
scénarios... Comment il va faire entre Donald Trump qui va lui hurler au téléphone
À mon avis, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'en fait, le meilleur des scénarios, c'est qu'il laisse les taux au niveau stable. Il ne va pas les baisser immédiatement. Non. En revanche, il y a encore quelques jours cela, dans une interview, il a été très très clair. Pour lui, la direction en termes de taux d'intérêt... directeur, c'est d'avoir des taux qui seront très bas parce qu'effectivement, aux États-Unis, l'IA va être déflationniste. Donc, ça colle au discours de Trump. Donc, à mon avis...
Un bon banquier. Isabelle. Voilà un bon banquier d'affaires américain, Isabelle.
Donc, vous voyez, si, à mon avis, il passe l'été sans hausse de taux, il passe l'été et on pourrait discuter en fin d'année, voire 2027.
Mais on parlait des méga... des jumbo cuts, c'est pas d'actualité pour l'instant. Le fait que quand il arrive, il descend à 0,50.
Certains membres comme Christopher Waller qui était plutôt en faveur de ces baisses de taux assez massives et qui était assez consensuel par rapport à d'autres qui ont été nommés par Trump, on voit qu'il laisse plutôt optique de stabiliser les taux. Mais ça peut être un sujet l'an prochain, en revanche.
À mon avis, c'est pas. Mais d'ici à la fin de l'année, vous voyez des baisses de taux aux États-Unis?
Je serais pas surpris d'avoir une baisse, oui.
Isabelle, d'ici à la fin de l'année aux États-Unis.
Ben, c'est encore l'idée de la collégialité. Il va pas décider tout seul. Il va falloir qu'il convainque les autres membres du comité de politique monétaire. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, alors ça va dépendre de ce qui se passe dans les prochains mois, mais qu'aujourd'hui, ça soit en faveur d'une baisse de taux. Mais effectivement, on est encore très loin du second semestre. On sait tout ce qui peut se passer. On voit très très bien que ça bouge très très vite. Donc oui, le champ est ouvert, mais il va falloir quand même convaincre les autres.
Vous voyez quand même qu'on a une émission, on a deux banquiers centraux. Deux patrons de la BCE, deux gérants internationaux. Franchement, on vole très très haut. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler marché, on va parler de ces chiffres phénoménaux et de ces nouveaux standards américains. Et puis, on va parler évidemment des actions à acheter ou vendre et des placements de la semaine.
BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on a démarré sur des chapeaux de roue avec plusieurs banquiers centraux dans cette émission, avec le banquier central Christopher Dembick, avec la gérante internationale, notre amie Virginie Robert, avec Pierre Chang, défenseur invétéré de la France, et puis notre nouvelle venue qui a fait une entrée fracassante, Isabelle Job-Bazzi, qui a décidé de ne pas revenir à l'émission puisqu'elle a défendu Christine Lagarde. En fait, c'était un choix délibéré, ça lui a pas plu, elle a pas aimé l'ambiance, elle a dit je veux pas revenir, donc comment je peux faire pour pas revenir? Je défends Christine Lagarde à l'émission de Marc Fiorentino et je suis sûr de ne pas revenir. Allez, on y va sur les marchés. Eh bien, on est toujours plus près des étoiles, hein. Petite hausse cette semaine, mais quand même sympa. Et puis surtout, bon voilà, depuis le début de l'année, 10% pour le S&P, 15% pour le Nasdaq, 32% pour le Nikkei, le MSCI World, 10% de hausse. Avant de parler des marchés en général, j'ai été très frappé cette semaine, Virginie, par les chiffres et par l'unité de tous ces chiffres. Là, je voulais parler évidemment de l'annonce d'Alphabet qui a dit, attendez, oui, il y a des gens qui s'introduisent en bourse et qui lèvent des 75 milliards, mais moi, je suis en bourse depuis un moment, et moi aussi, je vais lever 85 milliards.
C'est quand même.
C'est nouveau, hein.
C'est nouveau. On n'a pas vu ça depuis 20 ans sur ces grosses boîtes de
c'est ça.
Ces gros seniors.
On explique un peu aux gens, parce que quand on rentre en bourse, on lève de l'argent, donc c'est assez naturel. Voilà. Même si les montants dont on parle aujourd'hui sont colossaux, il faut se rendre compte que l'introduction en bourse dont on parle de SpaceX, 75 milliards de dollars, c'est gigantesque, je crois.
C'est surtout la valorisation derrière qui est induite.
Aussi, mais parce déjà les levées.
Google, tout le monde dit, mais 80 milliards, c'est rien par rapport à leur market cap. La capitalisation boursière de plusieurs trillions. OK, mais quand même, c'est
des montants colossaux. Tout ça va aller dans l'IA, donc tout ça va aller dans la croissance américaine.
Parce qu'ils ont toujours le choix d'aller sur de la dette.
Et ils le font aussi.
Ils le font aussi, bien sûr. Ils ont toujours le choix aussi de procéder à moins de rachats d'actions. Ça peut arriver d'ailleurs, hein. C'est peut-être quelque chose qui va arriver dans les discours des prochains mois. Donc c'est quand même on sent bien que là c'est la course à investissement et que ça entretient cette euphorie.
C'est marrant, je vous sens vous qui êtes toujours ultra enthousiaste sur les boîtes américaines.
Je suis toujours enthousiaste sur les boîtes américaines, mais
pas toutes. Je sens une petite réticence, c'est-à-dire j'ai l'impression que les chiffres qui nous donnent nous le tournis. Vous dites quand même, il y a peut-être un peu d'euphorie.
Oui, on est dans l'euphorie et on est dans l'euphorie sur une certaine catégorie. Il faut savoir que le S&P 500, les 10 premières sociétés, c'est 42% du S&P 500. Et ce phénomène concentration s'auto-entretient, voire se développe avec la gestion passive. Et on est sur un sujet là, on est vraiment sur un sujet. Et que 70% de la hausse sur les deux derniers mois du S&P 500, c'est pas les traditionnels. Alors peut-être un peu les tech, celles qu'on connaît, les Apple, etc. C'est les semi-conducteurs, se tromper.
C'est les puces, hein.
Et quand vous avez certaines sociétés qui, certes, il y a une réalité derrière, d'accord. Mais quand vous avez ces sociétés qui se retrouvent, qui sont cycliques et qui sont, on peut le dire quand même, dans un schéma de commodité et qui se retrouvent à se payer 500 fois les résultats, on peut se poser la question. Et c'est auto-entretenu, il y a beaucoup de narratifs. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que on est plus dans ces logiques de flux qui se déversent sur les marchés que dans une vraie analyse fondamentale.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'explication qu'ont donné un ou deux spécialistes des bitcoins, puisque bitcoin a pas mal...
Ça n'intéresse plus personne, vous avez vu.
C'est qu'en fait, il y a de la sortie de flux des bitcoins pour aller vers se préparer pour les SpaceX.
Mais pourquoi vous allez faire du bitcoin, faites des trucs dans l'espace?
Alors, juste
franchement, Marc, vous êtes asbine.
J'imagine que vous avez des copains ou des copines qui vous appellent en vous disant « Est-ce que j'achète du SpaceX ? Oui. Ça va s'introduire ? » Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ah non, mais les gens en ont déjà beaucoup parce qu'il y avait déjà moyen d'avoir...
Mais aujourd'hui, SPV, quelqu'un vous dit « Je participe ou pas ?»
Nous, on est dans la lecture du prospectus et c'est une société très intéressante, c'est fabuleux. Moi, j'aime beaucoup Starlink. Hein, alors c'est un peu la vache à lait. Là, dans le, bon, voilà. Mais donc, bien sûr qu'on va suivre, mais on ne va pas se précipiter. On va prendre notre
temps. Vous allez suivre, c'est-à-dire vous allez rentrer à l'introduction ?
Non.
Vous allez investir ?
Non.
Non.
Donc on va
suivre. Vous pensez que c'est trop cher à l'introduction ?
C'est très rare qu'on rentre à l'introduction. D'accord. Là, on pourrait, parce que vous avez vu Elon Musk. Ouais. C'est l'histoire d'Elon Musk, c'est iconique, hein. Bon, parce qu'il aura plus de 80% des droits de vote. Et donc, il dit le retail, 25% de l'IPO. C'est du jamais vu, ça, non plus.
C'est pas un truc pour attirer les pigeons, un peu ?
C'est-à-dire non, ça fait partie du film.
C'est pas plutôt de se dire c'est eux qui vont faire l'excitation et la volatilité.
Ça fait monter
les prix ça me permet de vendre plus cher.
Les ménages américains n'ont jamais autant détenu d'actions qu'aujourd'hui.
C'est dingue.
Pour savoir. Donc il y a cette volatilité, il y a cette gestion passive. La gestion passive, elle est aussi entretenue aux États-Unis parce qu'il y a une fiscalité qui est plus attractive.
On rappelle que la gestion passive, c'est la gestion à partir notamment à travers les ETF. Notamment, et la gestion indicielle.
Certificats représentatifs d'indices. Vous avez des indices qui sont sortis maintenant sur la DIRAM, donc pas juste sur les semi-conducteurs, mais une partie des semi-conducteurs. Ouais.
Sur la DIRAM, c'est pas le DIRAM. Hein,
non.
J'ai dit pour les gens, parce qu'on a pas mal de gens qui nous regardent au Maroc. Il n'y a pas d'indice sur le DIRAM encore. Il y a des indices.
Donc il y a des effets mode. Et revenons un peu aux fondamentaux. Mais vous savez, ça ne m'inquiète pas plus, parce que après, les fondamentaux, ils vont reprendre leurs droits.
Ouais, mais enfin, quand ils reprennent leurs droits, on peut se prendre une claque.
Sur cette couche-là, il y aura un moment donné. Et c'est le principe. Moi, j'aime pas parler de bulle, parce qu'une bulle, le principe, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle éclate, et on ne sait pas pourquoi elle éclate à un moment donné. Mais ça arrivera forcément. Donc il faut raison garder, comme on dit.
Pierre, quand vous voyez, vous êtes quand même très orienté France, même si vous faites d'autres choses à travers votre fonds Impact, quand vous regardez nos deux intros cette année, petites, c'est pas grave, et que vous regardez 1000 milliards, 2000 milliards, vous dites je suis un peu le mec de province, quoi.
Nous, on n'a pas.
Je parle pas de votre accent, ça n'a rien à voir. Ne le prenez pas personnellement.
C'est moi qui me fais bisuter.
C'est exactement, toi, défends-toi un peu.
Merci Marc. Nous, on n'a pas la Silicon Valley, malheureusement. On a un système de retraite par répartition. Donc, tant que ça sera le cas, je veux dire, on ne pourra pas rivaliser, ça c'est sûr. Donc ça, là, je l'accorde. Mais le système par répartition, à mon avis, finira par craquer tôt ou tard. Ça a déjà commencé. Bon, voilà. Donc. Ça, c'est sûr, on ne peut pas rivaliser. Maintenant, sur les montants mirobolants, moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand même, ce sont des gens visionnaires, là, tous ceux qui lèvent, tous ceux qui mettent, c'est quand même des gens qui ont vu plein de choses.
Une réalité.
Donc, il se passe quelque chose. Clairement. En fait, ils préfèrent mettre gros maintenant pour être sûr d'être dans la partie demain. Donc, clairement, il se passe quelque chose. Maintenant, là aussi, je pense qu'il y a deux certitudes assez claires. C'est que ce genre de révolution, quelque part, ça donne forcément lieu à une euphorie. Et ce qui est sûr aussi, c'est que l'euphorie va se dégonfler.
Mais on ne sait pas quand.
Maintenant, toujours le problème, c'est.
Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas s'il n'y a pas.
Sous-jacent.
Absolument.
En tout cas, mon sentiment,
c'est bien sûr.
Isabelle.
C'est l'histoire de toutes les révolutions industrielles. Si vous regardez, ça a toujours donné lieu à de l'euphorie financière, voire à des bulles financières. On a eu quand même la bulle des chemins de fer au milieu du.
Qui a bien connu Christopher.
Si on regarde le crack de 29, ça vient après toutes les innovations liées à la deuxième révolution industrielle. On a eu la bulle Internet. Ouais. Donc, on voit très bien, les mécanismes sont toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que quand on a une innovation, on imagine qu'il y a à la clé des profits juteux, qu'on va avoir énormément de gains de productivité, de la croissance.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux narratifs. Parce qu'au début, on a eu le narratif IA, et puis quand ça s'est un tout petit peu essoufflé, on a eu le narratif des puces et des semi-conducteurs. Mmh. C'est marrant, il y a deux narratifs dans cette bulle IA.
Mais en fait, c'est quand même toujours la même histoire, et ça pousse, et avec des comportements un peu grégaires des des investisseurs. Mmh. C'est, je veux pas manquer le mouvement. Mmh. Tout le monde va au même endroit au même moment. Ça fait monter les valorisations à des niveaux probablement excessifs. Et oui, ça va probablement un jour dégonfler. Et il n'empêche que l'intelligence artificielle, c'est une
réalité.
Évolution industrielle qui va transformer nos économies sur le moyen et le long terme. Mais à court terme, est-ce qu'elle sera en capacité de délivrer les promesses de profit, les promesses de gains de productivité, etc. Je
ne
suis pas certaine à court terme. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un retour à la réalité.
Tout ça, ça devient de la macro aussi, parce que évidemment, ça influe sur la croissance avec l'effet richesse. Et ça veut dire que quand Virginie nous dit peut-être que ça va se dégonfler, mais si ça se dégonflait, ça aurait un impact quand même sur la consommation des ménages, surtout qu'on sait qu'elle est tirée par les 10% les plus aisés.
Voilà, aux États-Unis, tout à fait. Et vous avez sur le patrimoine des ménages américains, vous avez quand même 70% qui est sur des actifs financiers.
C'est dingue.
Massif. Donc, bien évidemment, effectivement, ils investissent massivement. On le voit. Il y a même un fait qui est assez marquant. D'habitude, quand même, les particuliers via les ETF étaient américains. En l'occurrence, c'était plutôt suiveurs de tendance. Si vous regardez les données du mois de mai. Les entreprises qui ont été choisies par les particuliers américains ont mieux performé de 16 points celles choisies par les fonds spéculatifs et les fonds institutionnels. Donc, ça vous montre aussi qu'ils commencent à avoir une telle assise que malgré tout, c'est plus des acteurs qui sont suivis, ils peuvent initier quelques tendances sur le marché. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à cela. Moi aussi, je suis assez sceptique à l'égard de SpaceX en termes purement d'introduction en bourse, pas sur le business model. Mais malgré tout, si vous avez 25% qui est réservé aux particuliers, je suis d'accord qu'il y aura de la volatilité, mais peut-être que finalement, ce serait une bonne opération également.
Sauf qu'on s'aperçoit que cet argent, il part de quelque part. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il part un peu des bitcoins. C'est marrant, on a l'impression que les gens sortent de l'argent des bitcoins
pour faire du SpaceX. Oui, alors c'est ce qu'on dit. Après, il y a des histoires d'intégration dans les indices.
Vrai, hein,
mais vous avez vu que Dow Jones et S&P a dit, il n'y a pas de fast track là.
On attend
ça sera un an. Mais Nasdaq, oui, en quelques jours, ça va rentrer. Donc oui, il y aura des logiques de flux, bien sûr.
Où va la bourse, Pierre?
Alors, très intéressant. Merci pour cette question. Alors bon, comme on l'a dit depuis tout à l'heure avec Isabelle et Christophe, il y a plus trop de croissance, mais il y a de l'inflation. Et ça veut dire que c'est quoi en économie? Ça veut dire stagflation. Donc stagflation, je veux dire, c'est... Donc moi, je me mets plutôt dans ce schéma aujourd'hui de marché. Un marché de stagflation. Alors, comment ça se comporte, un marché de stagflation? Alors, on a une belle période de stagflation 1965-1985, notamment aux États-Unis, qui est bien documentée sur les marchés. Et globalement, ça donne des marchés qui latéralisent, c'est-à-dire qui sans direction. Voilà, des marchés en taux ondulé, comme ça. Et c'est ce qu'on voit un petit peu depuis le début de la guerre en Iran. En Iran, depuis le début de la guerre en Iran, le stock 600, il fait moins 1,5, sans direction. Voilà. Maintenant, ça, c'est les marchés.
Les États-Unis ont bien rebondi.
Mais c'est semi. Si vous enlevez les semis, il n'y a pas.
Voilà, et donc là, c'est là où c'est juste ce que dit Virginie. Merci. Dans les marchés en stagflation aussi, il y a des secteurs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas.
Okay.
Donc il y a deux secteurs à éviter, c'est l'immobilier et la consommation discrétionnaire. Et ça, on l'a bien vu là depuis le début de cette guerre en Iran. Et les deux secteurs à privilégier, c'est la technologie. Et l'énergie. Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé depuis la guerre en Iran. Donc, moi, je suis assez frappé par la similitude, quelque part. Donc, maintenant, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ce mouvement aujourd'hui, est-ce qu'il est réalisé ou est-ce qu'il va encore aller un peu plus loin? Donc, moi, mon sentiment, c'est que si demain, il y a une paix qui est signée, je pense que ces mouvements que je viens de décrire, ils vont s'inverser violemment sur une courte période, je dirais peut-être une semaine, deux, trois jours. Et ensuite, après, on va revenir un peu à la réalité quand la poussière se sera un peu reposée. Et là, on aura une économie globalement qui continuera à ralentir, comme elle était avant la guerre en Iran, et on sera, l'inflation sera encore un peu là, parce qu'il faudra au minimum 2 à 6 mois pour que le marché pétrolier redevienne plutôt normatif, et donc ça veut dire que le sujet de la stagflation peut encore s'exprimer en bourse. Voilà, donc
c'est
ce que je pourrais dire.
Justement, on passe très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le placement de la semaine pour vous, Virginie. Mais moi, toujours les actions. Je connais
merci
que ça.
D'avoir répondu. C'est bon.
C'est ça.
Passe mon tour.
Mais quoi en particulier?
Non, mais alors, il a raison. On a vécu ces rotations sectorielles. Et dans ces rotations sectorielles, il y a des opportunités. Donc, c'est vrai que par exemple, tout ce qui touche à l'aéronautique, c'est simple. Vous ouvrez votre écran, vous ne regardez même pas le prix du pétrole. Vous voyez, si Rolls-Royce à France abaisse, c'est que le prix du pétrole est en hausse. Voilà.
D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on achète là?
Donc, qu'est-ce qu'on achète?
Tout à l'heure les actions.
Sur des segments, des secteurs qui sont délaissés tort. La santé. Un peu d'aéronautique aussi. Et dans la consommation discrétionnaire, franchement, il y a des choses qui ont été perturbées. Donc voilà, faut faire son marché.
Très bien. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de l'année. On va laisser Isabelle en dernier, comme ça elle a le temps de bien se préparer. Christopher.
Alors, mon flop, ce sera une société qui fait dans on parlait un peu de santé, dans l'optimisation humaine. Concrètement, c'est quoi? C'est tout simplement, on vieillit plus longtemps, donc on vieillit mieux. Vous avez eu l'équivalent des Jeux Olympiques, mais dopés, ouais, stéroïdes, etc., qui s'appelle les Enhanced Games. Et derrière ces Jeux Olympiques, vous avez une société qui a été fondée par un milliardaire ou millionnaire allemand. Cette société, elle est entrée via un SPAC à la bourse de New York. Bon, la performance est vraiment un flop à cet égard. Mais derrière, malgré tout, peut-être, donc c'est pour ça, c'est pas complètement un flop. Il y a un business model. Ils saisissent notamment aux États-Unis. Vous avez un allègement de la réglementation sur plein de sujets dans cette thématique d'optimisation humaine, notamment peptides, etc. Et donc, en fait, ils surfent sur la libéralisation de la réglementaire sur toutes ces composantes-là. Donc, il y a quand même quelque chose à regarder. C'est pas un bon investissement boursier, c'est sûr et certain, mais il y a un business model, en tout cas, qui se développe sur ce sujet.
Mais pour vous, c'est un top parce que je vous vois rajeunir année après année.
C'est vrai?
Non. C'est donc.
C'est naturel.
C'est naturel. Je suis pas sûr.
Vous trouvez? Non. C'est la génétique.
Virginie, top ou flop?
Moi, je voulais parler de SpaceX, mais on en a déjà parlé. Alors, moi, je vais vous parler du Vavavoom, parce que vous savez, les marchés aiment bien avoir ces espèces de termes. Ça entretient aussi le narratif, c'est sympa. Donc, le Vavavoom, c'est le Vanguard ETF sur le S&P 500 qui a passé la barre du trillion cette semaine.
Le 1000 milliards.
Ouais, exactement.
Comme d'habitude.
Et donc, bon, ça a dû baisser un petit peu. Maintenant, ça a dû repasser en dessous parce que le marché a plutôt un petit peu consolidé. Mais c'est pour montrer très l'engouement de ces flux et notamment cette gestion passive, ce qui est inquiétant parce qu'évidemment, plus vous avez de la gestion passive, plus vous avez cet effet.
Plus on amplifie les mouvements.
Et plus à la baisse, on risque d'avoir des chocs aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut, je plaide pour la diversification.
C'est pas bon
évidemment
pour vous,
la gestion
active. Non, pour vous.
Ça dépend.
Pour vous, pour Pierre,
si,
pour
si,
vous
si,
aider.
Bien sûr.
Parce que vous alors, privilégiez la gestion active.
Oui, la gestion
et donc,
active,
quand
mais
vous voyez
il y a des périodes
qui va sur
le sur long terme. On se défend. Et Pierre, il se défend comme moi.
Ouais,
avec nos petits bras.
Non, mais d'accord, mais vous vous dites quand même que c'est une lame de fond, quoi, non? C'est un tsunami, ce truc-là.
C'est une lame de fond, mais ça ne veut plus rien dire à un moment donné, finalement. Parce que est-ce qu'il faut se référer à un indice? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'investissement? C'est quoi votre logique derrière et votre philosophie? Chacun fait comme il le sent, après tout, donc il faut respecter. Bon, moi, j'ai une certaine philosophie. Pierre en a une, je pense qu'on la partage, mais bon.
Pierre, top ou flop?
Top.
Alors le top, ça sera la France.
Non, j'aurais pu faire
la croissance française.
Mais en fait, bon, là, on parle beaucoup d'IA, on parle de plein de nouvelles tendances, mais moi, j'aime bien essayer de voir un petit peu le coup d'après. Voilà. Et le coup d'après, mon sentiment, c'est le quantique. Alors le quantique, ça fait longtemps qu'on en parle maintenant. Mais là, ça commence boursièrement, ça commence à venir. Là, on commence à voir enfin des acteurs cotés. Et cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la société américaine Honeywell a fait un spin-off. Donc, un spin-off, c'est-à-dire qu'elle a pris une de ses divisions et qu'elle l'a introduite en bourse. Et ça s'appelle Quantinuum. Et c'est quand même la bagatelle de 17 milliards d'euros, donc fin de dollars. Ils ont levé 1,7 milliard. Donc, c'est quand même une levée. Bon, à l'échelle des États-Unis, c'est. À l'échelle de la France, c'est beaucoup. Donc, bon, moi, j'ai trouvé cette opération très sympa. Donc, du coup, il y a. Maintenant, on a, on va dire, 5-6 acteurs cotés dans le quantique, avec des capitalisations qui vont entre 5 et 20 milliards. Donc, c'est quand même pas mal. En France, on a aussi notre cocorico, notre champion Pascal, qui pourrait aussi s'introduire cette année ou l'année prochaine sur une double cotation Paris-New York. Donc, pour les Français, nous, à Paris, on serait très heureux de les accueillir. Et puis, en plus, cette semaine, il y a aussi eu Copli, une société grenobloise française qui a levé quand même la bagatelle de 115 millions. Alors là aussi, toute proportion gardée relativement en France, c'est quand même un succès.
C'est même pas les donc, fils des banquiers sur les levées aux États-Unis.
Toute proportion gardée. Donc ce sujet-là, je pense que là, aujourd'hui, on n'en a pas du tout parlé dans cette émission, mais je pense que peut-être l'année prochaine, on en parlera peut-être davantage.
Bah, vous reviendrez pour en parler.
Voilà, avec plaisir.
Isabelle, top ou flop?
Alors moi, c'est flop.
Ouais.
Alors moi, j'ai plus macro. Hein. Ouais. Moi, c'est Trump et ses droits de douane, ses chers droits de douane, puisque c'était un peu son couteau suisse. Hein. Ça devait servir à réduire le déficit commercial, financer les baisses d'impôts et donc réduire les déficits publics aussi. Et puis, un instrument de négociation. Et puis, tout ça, ça n'a pas très bien marché. Hein. Le déficit commercial, il est au même niveau en 2025 qu'il n'était en 2024. Hein. Et il est abyssal. Hein. Il est à 1 200 milliards. Ça n'a pas fait baisser le déficit public. public qui a tendance plutôt à se creuser. Et puis, le Art of the Deal s'est transformé plutôt en taco. Mmh. Hein, Trump always chicken out. Et puis, ça revient parce qu'il s'est fait... En plus, il va falloir rembourser les plus de 160 milliards de droits de douane réciproques qui ont été indûment perçus puisqu'ils ont été retoqués par la Cour constitutionnelle. Et puis, ça revient. Il lâche pas quand même hein, l'affaire.
Hein. Il essaye de remonter.
À chaque fois, c'est sur une base légale qui est très discutable. Donc, il a remis 10%. Puis là, ça s'arrête au mois de juillet. Et donc, il veut en remettre en parlant pour aller contre le travail forcé. Et il mentionne l'Europe, ce qui est quand même risible.
Allez, on passe tout de suite au top 3. Et le top 3, vous allez voir qu'il y a sur le podium. Il y a Alain Pitou en numéro 1. Pierre, qui faisait la course en tête, reste sur le podium avec une deuxième position. Stéphanie Mauger avec 14,7%. Pierre, vous avez fait la course en tête. Vous êtes sur le podium depuis le début de l'année. Là, vous êtes content ? C'est sympa, non ?
Je suis content,
On vous arrête dans la rue ou pas ?
Alain, il doit avoir pas mal de sociétés IA, j'imagine, non ? Parce que.
Ouais, mais Alain.
Il a doublé là.
Alain, il a tout fait au pif, donc je sais pas si c'est valable, quoi. Voilà. Voilà, en fait, il tire au sort les valeurs, donc il essaye de montrer qu'en tirant au sort les valeurs, on fait mieux que les gérants actifs. C'est quand même pas sympa de sa part.
Après, faut la bourse, il faut savoir être humble. Hein. Faut pas toujours gagner.
On peut lui mettre un peu de musique qui fait peur à Pierre ou pas ? Pierre, on va afficher votre portefeuille, vous allez nous dire ce qu'on fait. Vous avez du ID Logistics.
On garde.
Vous avez du EDP.
Oui.
Vous avez du Carrefour.
Oui.
Vous avez du Unibail, ça va.
Là, on va la sortir.
Ah bah ouais, je m'y attendais.
Donc ça, c'est logique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Deux CRSI, 266% depuis le début de l'année.
Là aussi, on va prendre nos profits. Donc
bravo.
On va sortir également.
Bravo. Hein. Score.
Et là aussi, on va sortir.
Ah ouais, c'est grand nettoyage.
Elle marche. Bon, c'est une très bonne idée, mais elle marche pas très bien.
OB.
On garde.
Et si leur Luxottica, qu'est-ce qu'on achète, Pierre ?
Alors, on achète, la première, c'est Atos Software, donc dans logiciel. Ouais. Donc,
Avec deux S, on l'explique pour les gens.
Parce que Atos Software, c'est une société allemande qui fait du logiciel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur technologique, qui est un secteur qui profite des phases inflationnistes, il y a deux sous-segments qui ne marchent pas, enfin, qui ont souffert ces derniers temps, c'est les softwares. Parce qu'à cause de la crainte de disruption, donc il y a des valorisations, celle-là divisée par deux, par exemple.
Okay.
Voilà. Et deuxièmement, c'est les services informatiques, les entreprises sociales numériques, comme j'avais déjà au Bay.
On accélère, Edenred, on connaît.
Edenred, voilà. Et les gens. Bon, ça, c'est un acteur américain qui fait de l'efficience énergétique sur les bâtiments. Et notamment un tiers du chiffre d'affaires sur les data centers, le buzzword du moment. Et donc
on y va.
Voilà.
Une musique qui fait peur pour notre amie Virginie. Virginie. Votre portefeuille va ça. Vous avez du Amazon.
On garde.
Vous avez du CrowdStrike qui a bien rebondi.
Oui, on prend les profits.
Ah ouais, ok. Allez, on y va. On a du Meta.
On garde.
On a du Dolby.
On garde.
L3 Harris.
Ouais.
Ralph Lauren, cher à notre ami Christopher. Starbucks.
Tu veux me voir ? Pas de petit.
Non, je n'ai pas de
Apple.
Ok. Starbucks, on garde.
Omet, on garde. Uber, cher à Pierre qui fait ça le week-end. Gildan,
on sort.
Sony.
On garde.
Rolls-Royce, cher à Isabelle.
Ouais.
The Walt Disney Company, Netflix, toujours cher à Christopher. Ouais. Netflix.
C'est vrai, ça.
Et Cisco avec un S.
Cisco avec un S. Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète Thermo Fisher.
Allez.
Dans la santé. C'est un.
Rien à voir avec Thermomix. Rien à voir.
C'est difficile de faire.
Ouais, non, mais j'essaye de.
Peut-être qu'ils en ont dans le. Non. Ils produisent et ils vendent des équipements, des outils, des solutions, du service pour l'industrie scientifique et les biotech, la recherche médicale, etc. C'est le premier acteur aux États-Unis. Hein. C'est gros, c'est 179 milliards de market cap, 50 milliards de chiffre d'affaires. Enfin bon, voilà. C'est une société qui est un peu délaissée parce que vous savez, après le Covid, on a eu l'envolée des biotech, beaucoup d'investissements. Et depuis, là, c'est un secteur, qui n'intéresse plus personne, pardon. Et voilà, il y a eu un ralentissement, mais je pense qu'il va y avoir reprise.
Alors justement, qu'est-ce qui va être le catalyseur du rebond de cette valeur délaissée ?
Eh bien, l'IA, peut-être.
D'accord.
Alors non, il y a un désintérêt, donc je pense qu'il va y avoir une reprise quand même. Et puis, sur le long terme, c'est toujours très structurant, leur sujet. Ils ont un niveau d'efficience d'opération, même dans le savoir-faire des menés, qui est excellent. C'est pas très cher, ça se paye 19 fois. Et évidemment l'IA, puisque pour eux, c'est à la fois sur les biotech, évidemment, il va y avoir une accélération, et c'est tant mieux, souhaitons que nous en profitions tous à l'avenir, dans ces avancées, dans cette innovation scientifique et médicale. Et puis, eux-mêmes vont apporter des outils. Et comme ils sont très, sur toute la chaîne, y compris dans lorsque vous allez soumettre vos tests, vos agréments, etc., eux-mêmes vont proposer des outils. Enfin, ils sont déjà dessus.
Merci beaucoup. On va procéder à la tradition. Donc, quand il y a une nouvelle venue, on va voter pour savoir si elle revient. Donc, quelqu'un qui critique Trump et qui adoube Christine Lagarde.
Ah, bon, ça, c'est embêtant.
Pour moi, c'est un bon. Pierre, elle peut revenir ou pas?
Moi, je vote pour le retour.
Virginie?
Oui.
Retour, il faut une voix contraire. Hein? Oui, il faut une voix contraire.
Des voix contrariantes.
Ouais, voilà.
Donc, malgré ma réticence.
Voilà. Oui. Là, c'est dur. Finalement, on peut décider. Hein.
Vous avez vu, même là, ça devient une démocratie.
C'est la démocratie.
Bon, Isabelle, merci beaucoup. C'était très bien. On était très contents de vous avoir et on aura le plaisir de vous recevoir à la saison prochaine. Bon, merci à tous.
Merci Marc.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont on vient de m'annoncer tout de suite, là, à la minute, qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast. Bon, j'ai envie qu'on explose les records en juin et qu'on termine la saison sur des chapeaux de roue. Alors, parlez-en autour de vous.
C'est votre argent sur BFM Business.